Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonjour et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Pour ce dernier mercredi d'août, eh bien, je vous propose une rediffusion, mais qui annonce déjà une émission en direct que nous reprenons dès mercredi prochain. En l'occurrence, le mercredi 11 septembre, je vous propose de rencontrer des femmes qui sont allées au Chiapas pour la rencontre internationale pour la solidarité contre le néolibéralisme, organisée par l'armée zapatiste, réunissant des représentants du monde entier à San Cristobal de las Casas. Et eh bien, cette semaine, je vous propose d'écouter d'abord une première visite qu'avaient rendue au Chiapas deux femmes, Viviane Gonick et Suzanne Lersch, au mois de décembre 1995. Et elles nous avaient raconté les diverses rencontres qu'elles avaient pu effectuer là-bas au Chiapas, rencontres de femmes entre autres. Et je pense que cette émission, lorsque vous la réécouterez, vous mettra un petit peu dans l'atmosphère de ce qui se passe au Chiapas et vous préparera à entendre d'autant mieux le récit des nouvelles femmes qui sont allées, en ce mois de juillet 1996, participer à cette rencontre internationale pour la solidarité et contre le néolibéralisme. Des gens du monde entier étaient là, les gens ont été séparés dans divers lieux pour discuter de différents thèmes. Les femmes se sont retrouvées, semble-t-il, dans le thème des minorités. Elles n'étaient pas très contentes, mais elles nous en parleront elles-mêmes. Voilà, alors pour aujourd'hui, dans Remue Ménage, eh bien, le Chiapas, première étape, et mercredi 11 septembre, Chiapas, deuxième étape. Et je vous retrouve de toute façon en direct, mercredi prochain, dans Remue Ménage, pour notre nouvelle émission en direct. Et tout de suite, eh bien, nous partons d'abord en voyage pour le Chiapas, en musique. Mais vous retrouvez bien évidemment Marjolaine à 19h.
Que con ella no mataba. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ella no mataban. Con mi 30-30 me voy a a engrosar la fibra de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación.
Ya sería el horizonte combatiente zapatista y el camino marcará.
Adelante, a esa gran voz que la lucha avanza.
Alors Viviane et Suzanne, nous sommes partis avec vous au Chiapas et vous allez nous raconter vos impressions de voyage. Vous teniez à expliquer que vous n'étiez pas des reporters sur place, vous étiez des voyageuses sur place. C'était une grande différence. Pourquoi faire cette différence ?
Parce que nous avons été comme ça, disons, c'était un voyage intéressé, parce que ce qui se passe avec le mouvement zapatiste nous intéressait depuis le début. Disons, l'irruption des zapatistes sur la scène politique il y a 2 ans a non seulement secoué le Mexique, je pense qu'elle a secoué beaucoup de gens dans le monde entier, en Europe aussi, parce que l'affirmation de cette révolte indigène, oui, mais c'était une révolte qui dépassait le cadre uniquement des revendications indigènes ou des revendications nationales, pour dire non au néolibéralisme, puisqu'ils ont envahi Saint-Cristobal le jour où entrait en vigueur au Mexique le traité de libre-commerce, donc l'ALENA. Donc c'était quand même une révolte très moderne. Alors ça fait longtemps que, depuis ces 2 ans, que ça nous titille, ça nous intéresse. Il y a à Genève un mouvement de soutien au Chiapas, c'est un groupe Viva Zapata qui organise des séances d'information, des séances qui édite du matériel d'information, qui organise aussi des actions à des moments critiques. Par exemple, quand l'armée a envahi le Chiapas en février 1995, le groupe Viva Zapata s'est mobilisé pour faire pression sur l'ambassade. Donc il y a à Genève un intérêt pour le mouvement zapatiste et nous sommes partis avec cet intérêt-là. Nous sommes allés dans le Chiapas aussi concrètement parce que le groupe Viva Zapata soutient un projet de développement d'un centre de santé dans un petit village près de la forêt, Saint José del Rio, et donc l'idée c'était d'aller voir ce qui se passait. Alors nous sommes arrivés au Chiapas, au Mexique en décembre, et très vite, en lisant les journaux, on a senti que la situation était assez crispée dans cette région, que les choses bougeaient beaucoup et qu'il y avait une forte inquiétude dans la région d'une éventuelle attaque militaire. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant au Chiapas, c'est ce qu'ils appellent une guerre de basse intensité. C'est-à-dire que l'armée est présente, n'agresse pas nécessairement, ne tue pas nécessairement des gens, mais elle est là, elle patrouille, elle pénètre dans les villages, elle arrête des gens, les interroge, détruit la récolte. Donc il y a vraiment une pression très très forte de l'armée. Et cette pression est montée d'un cran au début décembre, avec l'annonce qu'ont fait les zapatistes de fêter à leur manière le 2e anniversaire de la prise de Saint-Cristobal.
Mais est-ce que quand on est, comme vous, voyageuse dans cette région, on sent ça ? Ou bien est-ce que l'armée est omniprésente dans la rue, par exemple ? Ça vous a gêné, Suzanne ?
Alors, c'est très contradictoire, parce que c'est à la fois une région très touristique, le Chiapas. Il y a beaucoup de tourisme. Et je pense que si on n'a pas un regard un petit peu ouvert, on peut très bien passer à côté de cette armée. Bon, il y a aussi plusieurs zones où les touristes ne vont pas, soit parce que c'est trop difficile, soit, on verra plus tard, parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Mais, disons, la vie de touriste est tout à fait possible sans être arrêté par l'armée. Mais c'est vrai que l'armée patrouille à Saint-Cristobal même. Il y a des chars qui passent, des camions militaires avec des soldats qui pointent des mitraillettes. Et puis, dans les villages indiens où on sait que les zapatistes ne sont pas loin, alors là, l'armée est beaucoup plus présente. Et puis, justement, au mois de décembre, l'armée s'est fait très lourde, puisque, justement, les zapatistes avaient dit vouloir fêter, commémorer le 1er janvier 1994 par des fêtes qui dureraient 4 jours dans 4 endroits. Et en créant des lieux qui deviendraient des lieux permanents de la culture indigène, lieux qui s'appellent des Aguascalientes.
Alors, on va peut-être revenir à cet événement dans un tout petit moment. Précisons encore comment vous arrivez dans cet endroit, histoire qu'on campe le décor. Hein, parce que si n'importe qui décidait d'aller au Chiapas, comme tu le dis, Viviane, il y a beaucoup de gens qui y vont, puisque c'est une région très touristique. Est-ce que, par exemple, être au courant de ce qui s'y passe, de ce que les apatistes vont faire, ça, est-ce qu'aussi tout le monde le sait? Est-ce qu'ils utilisent les journaux? Est-ce qu'ils utilisent la radio? Comment, par exemple, bon, tu parles de cet événement, mais comment les gens le savent? Est-ce que vous, pauvre Pékin dans la rue, pauvre voyageur, vous savez ça, Suzanne?
Donc, il existe au Mexique un quotidien qui s'appelle La Jornada, qui est un excellent journal de gauche, qui informe de façon très, très complète sur tout ce qui se passe au Chiapas. Donc, disons, n'importe quel esprit un peu curieux qui lit ce journal, qui paraît tous les jours, est tout à fait bien informé. Le problème, c'est que ce journal n'est pas distribué de façon égale dans tout le Mexique. C'est évident que sorti des grandes villes, il est vite introuvable. On s'en est aperçu quand on a fait un peu de tourisme au Yucatan. On était vite décroché de notre journal favori. Mais disons qu'une bonne partie de la presse nationale reprend quand même très très régulièrement les événements du Chiapas. Bon, certains évidemment en déformant considérablement suivant leur optique. Et puis, en arrivant à San Cristobal, on a vu que les journaux locaux informent aussi très, très, très régulièrement sur les événements. Bon, évidemment, avec des optiques peut-être un petit peu différentes. Mais il est vrai que si on n'avait pas eu ces contacts préalables, donc à travers les liens qu'a le comité Viva Zapata de Genève avec des groupes qui sont actifs, notamment une ONG qui agit dans le domaine de la santé, on aurait eu, je pense, de la peine, justement, à pouvoir participer donc aux deux événements dont on va vous parler au cours de cette émission, à savoir la fête d'Oventic et le forum des indigènes.
Est-ce que les apatistes ne sont pas dans la ville de San Cristobal? Ils ont débarqué, ils ont envahi la ville de San Cristobal le 1er janvier 1994, il y a deux ans, mais ils n'y sont pas en général. Ils vivent dans une région campagnarde, montagnarde, normalement.
Alors, on ne sait pas très bien où sont les apatistes, ni d'ailleurs qui sont les apatistes, parce que, comme on le sait, les médias l'ont montré assez souvent, ils viennent masquer, ils ont des passe-montagnes ou des foulards sur la tête. Donc, c'est très possible qu'il y ait une partie qui ont une double vie, qui vivent soit à la campagne, soit dans les villes, et puis qui en même temps ont une activité. Mais disons, l'armée zapatiste en armes, elle s'est cachée, elle s'est beaucoup développée dans la forêt tropicale, qui est un peu dans la forêt Lacandon, qui est donc cette grande forêt qui couvre environ les deux tiers du Chiapas, je dirais. Et San Cristobal se trouve plutôt sur les hauts plateaux. San Cristobal, c'est la capitale historique du Chiapas. C'est une ville magnifique du XVIe siècle. C'est là où il y avait le fameux San Bartolomé de las Casas, qui était le grand défenseur des Indiens, qui a prouvé que les Indiens avaient une âme devant le pape. Mais à part ça, San Cristobal a plutôt une tradition, c'est plutôt une ville très réactionnaire. C'est là, c'est vraiment la ville des Blancs, ils s'appellent les Coletos, et c'est une ville où il y a tous les grands propriétaires terriens qui viennent, puisque le Chiapas est une des régions où la réforme agraire n'a jamais pénétré, donc c'est vraiment un lieu d'immenses propriétés, de cultures de café, principalement, de grandes industries. Par exemple, il y a des barrages, il y a énormément de ressources au Chiapas, mais la population indienne est dans un état de sous-développement très, très, ils sont les plus pauvres parmi les Indiens du Mexique.
Je crois qu'il y a quelques chiffres qui pourraient être indicatifs, intéressants à donner peut-être à nos auditrices et aux auditeurs, justement sur l'état du Chiapas.
Oui, effectivement, le Chiapas, pour donner une comparaison, donc c'est à peu près deux fois comme la Suisse. Il y a 3 millions d'habitants, dont 1 million d'Indiens, mais qui se répartissent dans plusieurs peuples, donc avec plusieurs langues. Les principaux sont les Tzotziles, les Tzetzales, les Chols, les Tzojolaba, les Zoc. Et il y a donc 50% de la population n'a pas d'eau potable, 90% n'ont aucun revenu ou un revenu ultra minimal, 72% des enfants ne vont pas à l'école. C'est un pays qui produit les trois quarts de l'électricité du Mexique, mais plus de la moitié des habitants n'ont pas d'électricité eux-mêmes. Et c'est un pays qui donc fournit 35% de la de la production de café du Mexique, mais les Indiens, eux, n'ont que 2 ou 3 hectares pour cultiver uniquement vraiment les graines de base. Et donc, c'est une situation très, très dure pour les Indiens, qui se sont d'ailleurs révoltés, où il y a eu toujours des révoltes d'Indiens très fortes. Déjà, même à l'époque de la colonisation, c'était un des endroits qui a été colonisé le plus tard, puisque pendant plus de 50 ans, les Indiens se sont battus avec les Espagnols pour garder leur souveraineté.
Oui, pour en finir avec les chiffres, je voudrais juste rappeler que le Mexique comporte 90 millions d'habitants, dont 27 000 vivent dans la capitale, et que les peuples indigènes du Mexique, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui a un poids quand même assez important. Ça représente environ 15 millions de personnes. Donc quand on discute des droits des indigènes au niveau national au Mexique, ça représente quand même quelque chose qui est important, d'autant plus que la culture mexicaine, l'identité mexicaine est tout entière fondée justement sur cette identification au peuple indigène, ce qui n'empêche absolument pas le racisme d'être hyper développé également. Il y a une ambiguïté fondamentale, disons, dans l'identité des Mexicains qui fait que la question indigène est effectivement une question centrale au niveau national.
Est-ce que, Suzanne, on peut aussi donner quelques bribes historiques? Parce que paradoxalement, aujourd'hui, le parti qui est le plus opposé aux zapatistes s'appelle Parti révolutionnaire au Mexique. Donc, d'où sort ce parti révolutionnaire qui pourtant s'oppose profondément à ce qu'aujourd'hui propose l'armée de libération zapatiste?
Donc, le parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, a été fondé il y a maintenant plus de...
Je crois en 1910, c'était avec l'arrivée du dictateur Porfirio Diaz. Il s'est déclaré révolutionnaire dans une révolution nationaliste à l'époque, tout en accompagnant son action, c'est vrai, d'une réforme agraire qui était une des premières, je crois, en Amérique du Sud, d'une certaine tentative d'enrichir le pays, de construire des routes, etc. Mais c'est un parti qui est donc depuis 70 ans au pouvoir. C'est donc le parti et l'État, c'est la même chose. Et en même temps, la mafia, le parti et l'État sont tellement imbriqués que c'est un des pays, le plus corrompu. Finalement, c'est arrivé même en Suisse, puisque la belle-sœur de l'ex-président Paulina Salinas est venue... a été arrêté à Genève en décembre, justement, en venant ramasser le faux passeport de son frère et 90 millions de dollars, je crois. Donc c'est un état de corruption. Et on ne peut pas parler de démocratie. Salinas, visiblement, a gagné les élections en falsifiant les élections. Et le président actuel, semble-t-il, a été véritablement élu, mais dans des situations où la corruption est tellement haute qu'on ne peut plus parler de droit de vote réellement, librement exercé. D'ailleurs, si on a parlé de guerre de basse intensité, il y a certaines personnes qui nous ont parlé du Mexique comme une démocratie de basse intensité, montrant bien que, oui, ce n'est pas encore un régime militaire comme a pu être Pinochet, mais disons la situation n'est pas du tout, ne favorise absolument pas le respect des droits humains et encore moins celui des droits indigènes.
Est-ce que quand vous êtes arrivé au Mexique, justement la situation de la communauté indienne, d'ailleurs le terme indien est semble-t-il très péjoratif, ils le ressentent comme très péjoratif.
Mais ils parlent d'indigène, je crois aussi par référence aux déclarations des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. On ne parle plus d'Indiens parce que les peuples indigènes recouvrent effectivement les peuples dans le monde entier qui sont les indigènes, c'est-à-dire les premiers habitants. Et c'est par rapport à cette notion développée par les Nations Unies de droits du peuple indigène, de peuples indigènes qu'eux-mêmes s'appellent indigènes, je crois.
Donc est-ce que, quand vous êtes arrivé, la situation des communautés indigènes, indiennes, vous a frappé d'emblée? Est-ce que, malgré tout, ils viennent au marché, par exemple, à San Cristobal? Est-ce que, quand on est dans les campagnes, on se rend compte tout de suite de cette terrible pauvreté et différence qu'il y a entre la population métisse et la population indienne, indigène?
Absolument. Donc les différences sont immenses. Je veux dire, il y a plein de femmes et d'enfants qui marchent pieds nus dans un climat qui n'est absolument pas tempéré. Je veux dire, on s'aperçoit aussi l'état l'état des maisons, l'état des beaucoup de gens qui marchent le long des routes. Donc on s'aperçoit qu'on a affaire effectivement à un peuple qui marche à pieds nus le long des routes, alors que pendant ce temps, d'autres vont déposer 89 millions dans une banque à Genève. Donc il y a vraiment une violence ici des contrastes entre, disons, des pôles de la population qui est extrêmement forte.
Alors, vous êtes arrivé au Chiapas juste après Noël. Là, j'ai trouvé une musique qui fête normalement Noël au Chiapas. Alors, on écoute juste un tout petit peu. Ça a l'air d'être une très grande fête.
Alors oui,
c'est vous ça, hein, Viviane ?
Oui, c'est nous, la société civile internationale. J'avais jamais eu cette casquette, mais bon, voilà, une autre collection.
Alors, où nous trouvons-nous, là, avec ces slogans, visiblement, de fête, d'énergie, il y a musique, il y a slogan politique.
Alors, on se trouve dans un de ces lieux de fête. Celui-là s'appelle Oventic, c'est près de Saint-Cristobal, c'est donc dans les hauts plateaux. Alors, peut-être qu'on va réexpliquer un peu qu'est-ce que c'était ces aguas calientes. Aguascaliente, pour les zapatistes, il s'agit de créer, à travers, disons, les aguascalientes, ce sont des lieux de culture indigène. Alors, le premier que les zapatistes ont créé, c'était en août 94, et ils ont invité immédiatement toute la société civile mexicaine pour la Convention nationale démocratique, et 8000 personnes sont venues discuter avec les zapatistes. Ces lieux, pour les zapatistes, devaient être également des lieux permanents ou ensuite qui serviraient pour le développement de la culture indigène et pour le développement de l'organisation des indigènes. Pourquoi on les appelle Aguascalientes ? Aguascalientes, c'est une ville du nord du Mexique où Zapata a rencontré Pancho Villa dans les années 1912, je crois. Donc c'est un lieu, c'est un nom chargé
de référence historique.
Voilà, c'est un nom chargé d'histoire. Donc cette Aguascaliente est la première qui était dans un petit village qu'on appelle Guadalupe Tepeyac, a été détruit totalement par l'armée. Quand l'armée est entrée au Chiapas en février 95, ils ont complètement détruit. Il y avait par exemple une bibliothèque qui comprenait déjà plus de 10 000 ouvrages, qui a été saisi par l'armée. Et l'armée s'est installée à Guadeloupe et Tépéyac. C'est maintenant un lieu permanent où l'armée est là. Et c'est son cantonnement. Donc en fait, c'est un lieu très symbolique. Et les apatistes ont annoncé au début, début décembre, que cette fois-ci, ils allaient créer 4 Aguascalientes, ce qui a rendu le gouvernement et l'armée complètement hystériques, parce qu'il y avait vraiment aussi un peu un élément de provocation. Vous nous en avez détruit un, bon, ben maintenant, on en construira 4. Et dans les 4 coins du Chiapas, montrant bien que le zapatisme n'était pas seulement localisé justement dans la forêt Lacandon, mais était partout. Donc l'armée a réagi très fortement en commençant à patrouiller de façon très lourde à travers tout le Chiapas. Il y avait des colonnes de chars qui circulaient dans ces petits villages. La population a réagi aussi assez violemment. Dans plusieurs villages, la population a bloqué les chars. Donc la tension montait très fortement. Jusqu'à ce que, finalement, à travers l'organisation de l'évêque, qu'on appelle la CONAI, on soit arrivé à un accord, que ces lieux de fête pourraient avoir lieu, mais que les apatistes s'engageaient à ne pas venir avec des armes, défiler avec les armes, comme ils l'avaient fait la première fois en 1994. Un de ces lieux, c'était justement Oventic. Oventic, c'est donc les hauts plateaux près de Saint-Cristobal, un endroit où, soi-disant, les apatistes n'étaient pas du tout implantés. Mais on a pu le voir qu'au fond, il n'y avait pas vraiment d'endroit où les apatistes n'étaient pas. On croyait qu'ils étaient ailleurs et puis tout à coup, voilà, ils apparaissent aussi dans les hauts plateaux. Alors, c'est un...
Et là, comment vous entrez à Oventic, vous? Comment vous allez? On vous accueille comme justement la société civile étrangère. Comment vous pouvez participer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? N'importe qui peut accéder à ces moments de fête?
Donc là, pour pouvoir entrer, participer à ces fêtes, on devait avoir une carte d'accréditation. Et donc à travers les contacts qu'on avait eus, à travers la CONAI aussi, donc qui est l'organisation d'intermédiation, on a été dirigé au bon endroit. Disons, on est arrivé dans un bureau où des personnes qui avaient été habilitées pour ça nous ont remis des cartes d'accréditation avec notre photo, notre identité était soigneusement vérifiée. Donc effectivement, on a pu constater que c'était pas n'importe qui pouvait se présenter à cette fête.
Et qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que vous y avez fait?
Alors, il faut déjà disons, c'est difficile à visualiser à la radio, mais donc, déjà peut-être pour dire pourquoi on a choisi Oventic. Bon, c'était parce que c'était près de Saint-Cristobal, mais aussi parce que les autres, c'est-à-dire la Realidad, la Garrucha, la Morelia, étaient interdits aux étrangers. Dans le sens que les services de l'immigration, c'est-à-dire la douane, avaient installé au milieu, sur les routes, des barrières et arrêtaient tous les étrangers avec des visas de touristes et leur interdisaient de passer en disant que ce n'est pas une zone touristique. Et soit ils étaient interrogés longuement, il y a eu aussi quelques personnes qui ont été expulsées. Donc on pouvait, de fait, malgré que l'état de guerre ne soit pas déclaré au Chiapas, visiblement il y a des endroits où les touristes n'ont pas le droit d'aller. Donc on est arrivé à Oventic, c'est un petit village, c'est un hameau au milieu de la montagne. On arrive par une route en terre qui a été malheureusement... arrangé par l'armée pour pouvoir y passer avec ses chars. Donc les routes sont
aussi
en bon état.
C'est l'armée zapatiste qui en profite.
Parce que les chars doivent pouvoir passer partout. Et on arrive au milieu de ce plateau où il pleut les 3/4 du temps, où il y a du brouillard les 9/10 du temps et où les zapatistes, en tout cas les indigènes, ont travaillé pendant presque 50 jours pour terrasser et construire des scènes, des petites maisons pendant... donc ils ont travaillé d'arrache-pied pour construire cet immense terrain.
Et alors, vous avez rencontré des personnes là-bas, vous avez l'occasion... Bon, Suzanne, toi, tu parles très couramment l'espagnol, nous le savons bien. Et vous avez rencontré des gens, par exemple, des femmes? je suppose.
Alors, ce qui est, donc, on avait toutes ces... C'est difficile de dire combien de personnes il y avait, parce que ça a duré 4 jours, il y a des gens qui venaient et partaient, mais on peut dire qu'il y a eu environ 3000 personnes qui ont dû défiler dans ce coin-là, et donc c'était un des quatre. Et c'était des Indiens, habillés la plupart en costumes traditionnels, mais portant pour plus de moitié un foulard qui cachait leur visage. Donc ça donnait il y avait ce décalage entre un costume très traditionnel et ce foulard, c'était un bandana rouge d'une totale modernité.
Las mujeres indígenas, las que más sufrimos las injusticias y la humillación, los maltratos y la marginación, consecuencia de un sistema social injusto. Hoy, día 1 de enero de 1996, es para nosotras muy importante que no lo podemos olvidar, sino que la celebramos siempre, porque el 1 de enero de 1994 es el día en que nosotras las mujeres zapatistas, en nombre de todas las mujeres de Chiapas y de México, nos decidimos también levantarnos en armas por democracia, libertad y justicia. Por eso fuimos muchas compañeras junto con los compañeros a tomar las ciudades más importantes de Chiapas.